Je propose qu'on commence. Débat, c'est Charlie ou pas Charlie, hein? Ce que je voudrais vous dire, parce qu'on a eu un débat auparavant, hein, qui pourrait, j'en ai discuté avec Saïd, effectivement être, pourrait broyer du noir. Et je pense qu'on aurait tort. Moi, je réfute cette idée qu'on est dans la fin de l'histoire. Autrement dit, la fin de la, des classes. Parce que c'est ça hein, qui nous est vendu. C'est un concept d'un philosophe qui s'appelle Fukuyama, je crois. Fukuyama, enfin, je ne sais pas le dire. On dirait même un japonais, d'ailleurs, hein, mais bon, mais c'est pas grave. Mais on nous a vendu ça. Mais très vite, ça a été démenti par Warren Buffett lui-même. Qui nous déclare première fortune mondiale à l'époque. Il a été dépassé, comme quoi la lutte des classes existe, mais c'est sa classe qui est en train de la gagner. Voilà. Et depuis, certains ont écrit des choses qui nous aident à penser. Parce qu'on est là pour penser d'abord. Certains théorisent, et ils ont raison, sur le réveil de l'histoire. Je pense à Alain Badiou, hein, je pense, c'est lui, hein. Donc, oui, je pense qu'on est dans un réveil de l'histoire. L'Amérique latine nous le montre. Malheureusement, ici, en Europe, ben, nous subissons ce que nous subissons. Voilà, nous le savons et nous essayons de contrer ce que nous sommes en train de subir. Et puis, bon, il y a les peuples, il y a ce qui se crée. En contrepoint, sans être dans le soutien ou pas à des régimes. Mais celui qui ne veut pas comprendre ce qui se passe en Iran, ce qui se passe aujourd'hui avec le Hezbollah, en Syrie, moi je ne suis pas pro Bachar el-Assad, mais je pense que c'est des gens qui résistent à l'impérialisme. Donc c'est des questions qui nous sont posées et je termine sur un point essentiel et qui ouvre le débat à mon avis, c'est celui qu'ouvre Naomi Klein, c'est-à-dire... la stratégie de choc. Et y compris cette idée qui est développée par un philosophe chez nous, enfin je dis philosophe, je ne sais pas si c'est un philosophe, c'est Finkielkraut. C'est-à-dire, quant au fond, quand on est dans un choc de civilisation. Moi je ne crois pas du tout qu'on soit dans un choc de civilisation, et notamment par rapport aux opprimés d'aujourd'hui, c'est-à-dire une grande partie du monde musulman, mais ça chacun développera. Non, je crois que le fond du problème, c'est entre... Et le choc, il est là, entre le choix de la société du partage ou du profit. Il n'est pas ailleurs. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, c'est Saïd qui intervient le premier, et après, ça sera Michel. Voilà.
On vient de vivre depuis le mois de janvier une période particulière. Et une période qui peut prêter au désespoir si on ne fait pas attention à un certain nombre d'éléments d'analyse, mais aussi une période... qui montre, et c'est important, surtout par rapport au débat précédent, la fébrilité des classes dominantes. Elles ont besoin, aujourd'hui, d'inventer des romans. Parce que les choix économiques qu'elles font, ces classes dominantes, conduisent inévitablement, à plus ou moins long terme, à des explosions sociales. Et que l'enjeu aujourd'hui, pour ces classes dominantes, est bien de diffuser du roman idéologique qui empêche les prises de conscience. Et je pense que la séquence historique que nous avons vécue depuis janvier, au niveau idéologique, est un de ces romans idéologiques qui est construit pour brouiller les cartes et empêcher les prises de conscience. Alors pour cela, je voudrais rappeler un grand monsieur qu'on a intérêt à redécouvrir, qui est Antonio Gramsci. Du fin fond de sa prison, il était emprisonné par les fascistes italiens, Antonio Gramsci s'interrogeait sur les raisons de la défaite. Et il disait... Une des raisons de la défaite, c'est que nous avons sous-estimé une des instances de la lutte, qui était la dimension idéologique. Il continuait en nous disant que la bourgeoisie était trop intelligente pour considérer qu'elle pouvait régner uniquement par la force, qu'elle avait très tôt compris qu'il lui fallait un second pied à sa domination, qui était le pied idéologique, diffuser des grilles d'analyse, diffuser... des thèses, diffuser des explications qui empêchent les prises de conscience. Et je pense que si on ne prend pas en compte cela, on ne peut pas saisir ce qui s'est joué dans, depuis le mois de janvier autour du débat « L'esprit de Charlie »,« L'esprit du 11 janvier »,« Je suis Charlie », etc. Alors pour bien saisir cela, il faut resituer, c'est un réflexe matérialiste de base, resituer notre période dans son contexte. Et quel est notre contexte? C'est un contexte qui démarre, la séquence historique, elle démarre avec la fin des équilibres issus de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'avec la disparition de l'URSS et du camp socialiste. À partir de ce moment-là, l'ensemble des donnes au niveau mondial se transforme et au niveau de chacune des nations. La disparition de cet équilibre et du contrepoids que faisait l'Union soviétique va avoir une première conséquence, c'est l'exacerbation des concurrences entre toutes les nations impérialistes. Et comme par hasard, on voit se multiplier depuis la fin de ces équilibres issus de la Seconde Guerre mondiale, on voit se multiplier les guerres pour les matières premières et le pétrole. Non pas qu'elles n'existaient pas auparavant, mais elles prennent une forme plus ouverte, plus directe et plus systématique. La seconde dimension que ça va susciter, c'est qu'il n'y a plus aucune raison, avec la disparition du camp socialiste, on en pense qu'on voulait, il n'y a plus aucune raison de réfréner les logiques du système capitaliste. Et on va avoir ce qu'on a appelé la mondialisation, c'est-à-dire la multiplication des politiques économiques revenant aux règles de base du capitalisme, la concurrence absolue. Et ça va créer une paupérisation sans précédent, et nos sociétés connaissent une paupérisation sans précédent depuis que, effectivement, le capitalisme a été contraint par d'autres forces de se réguler un minimum, et on est donc en face d'une paupérisation de la société française, de la société allemande, de toutes les sociétés. Et puis la troisième élément du contexte, ben c'est le besoin de freiner ce que vous avez abordé tout à l'heure dans le débat, les pays émergents. Si vous regardez deux cartes, la carte des matières premières et la carte des guerres, vous verrez qu'elles correspondent. Si vous cumulez à cela la carte des guerres avec la carte des accords signés par certains États avec les pays émergents, vous avez là la quasi-totalité des guerres. Autrement dit, nous sommes bien dans cette dynamique-là. Alors pourquoi je fais le lien avec « Je suis Charlie » ou pas Charlie ? Eh bien, tout simplement, parce que le premier élément de base avec un peu de recul, c'est de nous apercevoir qu'on a eu deux phases, une qui a duré quelques jours et une qui s'est accélérée, mais vraiment dès la première semaine, par des choix politiques, des discours publics, des orientations données aux médias. Ça a été simplement la première phase de quelques jours, l'écœurement face à des attentats. Et effectivement, il y avait un écœurement massif face aux attentats. Et puis immédiatement après, nous sommes passés à autre chose. Nous sommes passés des attentats à « Je suis Charlie », à « L'esprit du 11 janvier », à « Il faut un consensus et unité nationale ». On a essayé de nous faire croire que le passage était systématique, automatique, que c'était un passage qui venait d'en bas. Regardez, et vous pouvez la retrouver sur Internet, la chronologie des déclarations, et vous verrez que tous les discours sur le « Je suis Charlie », sur le 11 janvier, sont des productions étatiques directes ou indirectes. Direct quand c'est le Premier ministre qui le dit lui-même, indirect quand c'est par l'intermédiaire de médias. Et on est ainsi passé d'une situation à une autre. Dans la première phase, nous avions affaire à de l'émotion. Dans la seconde phase, nous avions affaire à de l'instrumentalisation de l'émotion. Et si on prend en compte ce que nous dit Gramsci, la classe dominante aujourd'hui, les classes dominantes, sont à l'affût, parce qu'elles savent que des révoltes peuvent éclater, sont à l'affût de tous les prétextes pour impulser des grilles idéologiques qui empêchent de comprendre. Le simple fait de fabriquer une telle expression, « esprit du 11 janvier », signifie qu'on a là la fabrique d'une grille d'explication pour nous tromper. D'ailleurs, on le voit bien, qu'est-ce qui s'est passé avec l'esprit du 11 janvier ? Dans le même discours où on parle de l'esprit du 11 janvier, On nous dit en même temps la conclusion. Ça nécessite l'unité nationale. Il n'y a plus de classe sociale. Nous avons là un ennemi qui dépasserait les classes sociales et qui nous amènerait à abandonner nos revendications propres, à abandonner nos intérêts. Et on fait voter à l'Assemblée nationale le jour où on a ce discours sur l'unité nationale, on fait voter quoi ? Quelques heures après, la poursuite des guerres au Moyen-Orient à la quasi-unanimité. À part quelques élus du Front de Gauche qui n'ont pas voté contre, qui se sont abstenus, tellement il y avait ce poids qui était mis sur « si tu oses dire je ne suis pas Charlie, ça veut dire que tu es avec les terroristes ». On a construit un débat binaire qui empêchait de comprendre. Mais surtout, ce débat-là, cette manière de poser le débat, qui vise à produire du consensus et de l'unité nationale, là où il y a du clivage de classe et des intérêts différents, bien cette manière de le poser, c'est immédiatement poursuivi par quelque chose qui est très très grave, qui a été la répression, y compris de la répression contre des enfants. On a quand même assisté à une situation où une ministre de l'Éducation nationale dit aux enseignants « il faut débattre, il faut permettre aux enfants de s'exprimer pour les convaincre » et en même temps elle dit « et nous demandons aux enseignants de faire remonter ceux qui vont trop loin ». On nous a fait croire que d'un côté il y avait un danger pour la liberté d'expression et de l'autre côté on réprime par une directive d'État, la possibilité d'expression. Ça a été quand même très loin. Et pour vous montrer en quoi on a intérêt à réinvestir le combat idéologique, ben on a eu peu de réactions. Des enfants de 8 ans convoqués dans des commissariats, parce qu'ils ont dit « je ne suis pas Charlie ». Il y a encore quelques dizaines d'années, même pas quelques dizaines d'années, mais encore 10 ans, peut-être que ça aurait provoqué des réactions massives. Et là, ça s'est fait et refait, on a une dizaine de cas comme ça, sans que ça provoque de réaction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les grilles idéologiques diffusées, elles ont déjà bien imprégné toute une partie de la population française. Mais ce n'est pas tout. Ces répressions étaient suivies d'autre chose encore. D'une loi sur le renseignement qui limite nos libertés publiques. Et cette loi sur le renseignement, elle nous propose quoi ? On a inventé un problème qui n'existait pas. C'était quoi ce problème ? Il y aurait un danger sur la liberté d'expression. Mais il n'y a jamais eu de danger sur la liberté d'expression en France. Ce n'est pas parce qu'il y a eu deux attentats qu'il y a un danger sur la liberté d'expression. On invente un problème pour lui trouver une solution. Et la solution, c'est quoi ? Eh bien, citoyens français, on vous propose de céder vos libertés contre de la sécurité. C'est le propre de tous les régimes totalitaires que de mettre en scène l'idée d'un échange des libertés contre la sécurité. Parce qu'après tout, en réalité, ce qui était montré au travers de ces attentats, ça aurait dû nous amener à une réflexion autre. Qu'est-ce qui fait que notre société puisse produire du côté de jeunes, non pas l'idée d'aller draguer, non pas l'idée d'aller s'amuser, non pas l'idée de penser à leur avenir, non pas l'idée de construire, de se dire quel voyage je vais faire, mais l'idée d'aller mettre des bombes. Quel est le processus qui pousse des jeunes Français à en arriver là ? Ce débat-là, on ne l'a pas entendu dans les médias, on ne l'a pas entendu du côté des politiques. C'était comme si il n'y avait pas besoin de ce débat, le seul débat à avoir, c'était il y a un danger immense et il faut s'unifier contre ce danger en oubliant toutes nos autres divergences. Et on a été plus loin. Donc je disais répression contre les enfants, loi sur les renseignements, et dans la foulée, nouvelle loi sur l'immigration. Effectivement, une loi qui demande une restriction des droits liés à l'espace Schengen. C'est quand même assez extraordinaire. Quel est le lien entre des Français qui tuent d'autres Français en France et l'immigration ? Aucun lien. On n'avait pas affaire à des gens qui arrivaient du Maroc ou de Syrie, etc. C'était des gens qui étaient les produits de la société française, qui avaient grandi ici, qui avaient été socialisés ici. La seule manière d'expliquer cela, c'est effectivement de renvoyer non plus au fait que ces jeunes étaient les produits de la société française, mais à quelque chose d'autre, et c'est là qu'on nous pousse vers des grilles qui nous égarent, c'est parce qu'ils sont musulmans, c'est parce qu'ils sont maghrébins, c'est parce qu'ils sont, etc. C'est-à-dire qu'on va produire une explication culturaliste, alors que les causes sont sociales, politiques et économiques. La conséquence, eh bien, on la paye encore aujourd'hui. La conséquence, ça va être la production dans la société française, par ces médias, etc. Et je pense qu'il faut prendre la mesure de cela pour pouvoir le faire reculer, d'un véritable sentiment sincère d'invasion. Beaucoup de Français ont l'impression que le danger est là, qu'on est menacé en permanence, et que par conséquent, eh bien, il faut se défendre, et se défendre en faisant confiance à l'État. Le travail d'Emmanuel Todd, avec qui j'ai plein de divergences, mais sur lesquels il y a quelques points extrêmement intéressants, le travail d'Emmanuel Todd, on a bien vu quand on parle de liberté d'expression, le premier qui dit autre chose que ce qui est dit médiatiquement, il est immédiatement l'objet d'une série d'attaques, le Premier ministre en tête, tu as cité Finkielkraut, on le retrouve partout, il est toujours au rendez-vous, Finkielkraut bien entendu, et puis on lui interdit des salles. Michel et moi, on a l'habitude, on nous interdit des salles. Mais maintenant, même un Todd, qui n'est pas quelqu'un qui dit des choses révolutionnaires, eh bien même un Todd, on lui interdit des salles, parce qu'il a juste posé la question, qui était dans la rue à ce moment-là? Parce que même cette grande manifestation, il faut l'interroger. Il faut l'interroger. Emmanuel Todd montre à partir d'un certain nombre d'enquêtes, montre que ceux qui étaient dans la rue, à Paris et en province, étaient essentiellement les couches moyennes et étaient essentiellement les couches moyennes non issues d'immigration. Autrement dit, des blancs couches moyennes. Les ouvriers blancs n'y étaient pas et, a fortiori, les ouvriers issus d'immigration. C'est qui les couches moyennes que je ne méprise pas du tout? Je dis juste qu'il faut renvoyer à cette absence de la classe ouvrière. C'est qui? C'est la clientèle du PS. Vous savez très bien que le PS, dans sa stratégie, considère qu'il n'y a plus rien à gagner du côté des travailleurs et que par conséquent, il faut se recentrer vers la conquête des couches moyennes. Alors, ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça date effectivement du choc des civilisations, tu as raison. Et auparavant, c'était d'autres grilles qui étaient diffusées, mais avec les mêmes fonctions. Ce n'est pas nouveau. Par contre, on l'a poussé à un degré tel que ça produit une augmentation réelle de l'islamophobie dans nos pays, c'est-à-dire de réaction contre les musulmans. Et à quoi mène l'islamophobie ici? Imaginez-vous, vous êtes un enfant de l'immigration, que vous vivez la paupérisation, parce que l'immigration, ce n'est pas des riches, c'est des travailleurs qui immigrent, que vous vivez la paupérisation, la précarisation, qu'en plus vous vivez les discriminations parce que vous êtes issu de l'immigration, et que vous avez l'impression qu'il y a un consensus islamophobe autour de vous. Mais n'importe quel voyou qui vient vous vendre Daesh, eh bien, l'oreille s'ouvre un peu plus. Autrement dit, l'islamophobie produit des candidats djihadistes. Et on voit bien le caractère construit de l'idéologie dominante. Islamophobie, ici, et guerre contre les soi-disant intégristes là-bas. C'est la même logique qui est en fonctionnement. L'islamophobie est nécessaire à la justification des guerres. Et quand je disais que ce n'était pas nouveau, ben parce que depuis des années, et en particulier depuis ce gouvernement, on a ce que j'appelle dans mes travaux des politiques de racialisation. C'est-à-dire qu'on nous habitue à ne plus expliquer les phénomènes par des causes économiques, sociales, politiques, mais à les expliquer par des causes culturelles, religieuses, etc. Pourquoi racialisation? Ben quand un Manuel Valls vient nous dire « Les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer », il nous dit quoi? N'ont pas vocation. Dans leur essence, en eux-mêmes, ce n'est pas les conditions qui leur sont faites, ce n'est pas le type de situation économique qu'ils ont, c'est en eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'intégrer. Et si vous regardez ce qui est dit aujourd'hui sur l'islam, ce qui est dit sur les Roms, ce qui est dit sur un certain nombre de populations, il s'agit de diviser en France les classes populaires pour éviter qu'elles s'unissent justement. Et donc on a ces politiques de racialisation. Imaginez simplement que vous disiez aujourd'hui, les juifs n'ont pas vocation à... Tout le monde comprendrait qu'il y a un problème. Tout le monde dirait, oh là, oh, qu'est-ce qui se passe là? Mais dire les Roms n'ont pas vocation à, dire les musulmans n'ont pas vocation à, eh bien, ça a été tellement rabâché que ça peut passer. Et là, on a un vrai problème qui est qu'il va falloir vraiment développer le combat idéologique pour casser les acquis de la classe dominante qui a réussi à diffuser ces grilles culturalistes de lecture, ces grilles qui ne se basent pas sur la réalité. En réalité, ce qui est dit derrière, c'est votre problème, ça n'est plus le système social. Votre problème, ça n'est plus la classe dominante. Votre problème, c'est le musulman. C'est ça qu'on essaye de diffuser. Votre problème, ce n'est plus le capitalisme. Votre problème, c'est les Roms. Et à chaque fois qu'on laisse diffuser ces explications-là, on divise ceux qui devraient être unis. Alors, un des arguments, et j'en terminerai là-dessus, un des arguments qui est également mis en avant, c'est la question de l'antisémitisme, avec quelque chose qui est affirmé par des médias, par Caroline Fourest, par d'autres, on aurait un développement de l'antisémitisme dans la société française. Ce qui est vrai, nous avons un développement de l'antisémitisme dans la société française. Mais le discours, la dimension de perversité, c'est de nous dire que cet antisémitisme vient des quartiers populaires, dans lesquels on sait, quand on parle de quartiers populaires, on parle de populations issues d'immigration. C'est cette thèse-là qui relie l'antisémitisme, qui est un résultat de la crise, aux quartiers populaires, qui est problématique et qui contribue à la culturalisation. On a, en plus, ça dément les enquêtes qui existent. Chaque année, la Commission consultative nationale des droits de l'homme publie un rapport à partir d'une enquête et d'un sondage qui s'intéresse aux différentes formes de racisme. Et qu'est-ce que nous montre le dernier rapport? Il nous montre que l'antisémitisme n'est pas plus développé dans les quartiers populaires qu'ailleurs. Il augmente effectivement, moins que l'islamophobie d'ailleurs, mais il augmente effectivement, mais pas dans une partie, dans une catégorie particulière de la population. C'est dire qu'à chaque fois qu'on a des discours qui viennent à réduire les populations issues d'immigration ou les musulmans aux frères Kouachi ou à Koulibaly, on contribue à produire ces grilles culturalistes de lecture. En réalité, ce que nous vivons aujourd'hui, ça révèle quelque chose, si on dépasse ce discours idéologique, quelque chose de beaucoup plus grave. C'est que la pauvreté, la précarité a atteint un tel niveau dans notre société que dans certains endroits, des personnes sont en situation d'anomie, qu'elles ne sont plus accrochées nulle part et que des manipulateurs de la misère, des manipulateurs de la souffrance peuvent venir effectivement les instrumentaliser. Certains les instrumentaliseront dans des sectes, d'autres dans le djihadisme, d'autres dans toutes sortes de choses. Mais ça, c'est le résultat du fonctionnement économique de notre société et non pas d'une religion ou d'une culture, etc. C'est dire que ce que nous avons vécu depuis le 11 janvier, enfin depuis les attentats, c'est vraiment l'instrumentalisation d'une émotion sincère pour l'orienter vers une formule que j'aime beaucoup, qui est de moi, c'est normal que je l'aime, qui est que cette classe dominante, elle fonctionne en divisant ceux qui devraient être unis et en unissant ceux qui devraient être divisés. Merci.
Merci de m'accueillir et de me donner l'occasion d'échanger avec vous sur ce problème très grave. Et du débat précédent que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, j'ai retenu à la fin une interrogation un peu angoissée de notre camarade belge Raoul, qui pourtant est rarement angoissé, mais qui disait « Comment faire pour empêcher que la droite extrême continue à nous rafler tous nos thèmes et comment faire pour exister ?» Et je crois que ce problème est en train de se poser encore plus vite, encore plus fort en France. Et je crois que pour l'éclairer, il faut se demander pourquoi la gauche a capitulé face à la guerre. J'ai l'âge, et certains d'entre vous aussi, d'avoir participé à des manifestations grandiose et émouvante dans les années 60 et 70 pour le Vietnam. Il y avait des manifs tellement énormes que si on ne se donnait pas rendez-vous à un endroit précis, on ne se trouvait jamais. Il y a eu ça encore une fois en 2003 lors de l'Irak. Et maintenant, je m'excuse, mais si vous allez à une manif, que ce soit contre Israël, pour la souveraineté de la Libye, de la Syrie ou de l'Ukraine, c'est vraiment pas difficile de trouver vos camarades. On est souvent d'un nombre ridicule. Pourquoi ? D'où ça vient ? Et je parle dans un pays où on a eu des traditions grandioses avec Henri Barbusse, avec des dockers faisant grève pour arrêter des navires qui portaient des armes vers l'Indochine. Il y a eu des mouvements contre la guerre à toute une série d'époques, disparus. Et donc je crois qu'on doit analyser, premièrement, comment ça se fait que toutes les guerres économiques et stratégiques ont été, miracle, remplacées par des guerres humanitaires et démocratiques. On ne fait plus la guerre pour le charbon, le pétrole, les diamants, l'uranium, les corridors stratégiques, fini. On fait uniquement la guerre pour être gentil, pour le bien des gens, pour les protéger, pour les femmes, pour tout ce qu'on veut. Et là, le problème, c'est que vous allez dire, oui, mais ça a toujours été le discours de la droite et des dictateurs. Ok, oui, effectivement, Hitler parlait comme ça, il s'agissait de défendre le peuple allemand, la sécurité, l'espace vital, les menaces terroristes. Donc tout ça, on a déjà vécu. Le problème, c'est que ce n'est pas la droite aujourd'hui qui dit ça, c'est la gauche. C'est la gauche et pas seulement celle qui est au gouvernement. Il y en a d'autres aussi dans... Je ne vais pas citer des noms, mais chacun pense à ce qu'il veut. Dans à peu près toutes les couches de ce qu'on... Moi, je continue à appeler la gauche, parce que pour moi, la droite, la gauche, ça existe toujours. On a... La guerre est devenue la paix. Les prévisions, là, d'Orwell, la novlangue, tout ça, la guerre est devenue la paix. Et donc, on en arrive à cette situation que les États-Unis... Comme il est magnifiquement dit là derrière moi, dans cette affiche du cartooniste brésilien Latuf, USA, la mère du terrorisme, avec l'oncle Sam qui donne le sein à Al-Qaïda. Mais vous n'avez pas le droit de dire, de citer même les rapports des États-Unis qui disent « Oui, les États-Unis ont envoyé Ben Laden en Afghanistan » et ont mis ce pays à feu et à sang pour renverser un gouvernement qui les emmerdait. Oui, les États-Unis ont fait une alliance avec Al-Qaïda en Bosnie et au Kosovo, avec les résultats magnifiques dont on a parlé. Oui, les États-Unis, comme il y avait une opposition magistrale du peuple irakien, j'étais en 2002, juste avant la guerre en Irak, j'ai discuté avec plein de gens, les pro-Saddam comme les anti-Saddam, et tout le monde m'a dit, les Américains, ils peuvent entrer, ils ne sauront jamais comment ressortir. Et ça se voyait. Et donc quand on a eu, après le premier choc passé, les sunnites et les chiites qui luttaient ensemble contre l'armée d'occupation, on leur a envoyé les armes chimiques et ensuite on a envoyé les escadrons de la mort qui avaient fait tout un travail du même type par des méthodes terroristes au Salvador, en Amérique latine, et on a fait la même chose en Irak. Et puis, comme je l'ai écrit dans le livre « Libye, OTAN, médias, mensonges », en Libye, comme Kadhafi, ça n'était pas un grand démocrate, on est bien d'accord, mais dans le monde arabe, est-ce qu'il y en a beaucoup au niveau dirigeant pour le moment? Et en tout cas, il faisait du bien à son peuple et on vivait le cul dans le beurre, il faut le dire, en Libye. J'étais là au moment des bombardements et ils avaient l'éducation, les soins de santé, le logement, tout ça pratiquement gratuit. Vous alliez à l'étranger pour vous faire opérer, c'était remboursé. Donc, comme il y avait un soutien populaire important... À part les mafias de l'immigration et d'autres trafics à l'Est et à Benghazi, qu'est-ce qu'on a fait pour renverser Kadhafi? Ben, Al-Qaïda. La section libyenne d'Al-Qaïda. La CIA le disait en 2007, en 2008. Elle disait, faut pas s'allier à ces gens-là. C'est des terroristes qui reviennent d'Irak, ça va être épouvantable. On l'a fait. Et puis, on a recommencé contre la Syrie. Au Nigeria, Boko Haram est financé par l'Arabie Saoudite. Donc, on a maintenant un tabou incroyable dans les médias, c'est qu'on est un complotiste si on dit uniquement en citant des documents qui viennent des États-Unis que oui, il y a une alliance entre les États-Unis et le terrorisme pour foutre le bordel dans tous les pays qu'ils veulent déstabiliser. Ça, on n'a pas le droit de le dire Du coup, évidemment, les guerres deviennent incompréhensibles. Et tout ce que Saïd a dit, que je partage entièrement, c'est possible à cause de la manipulation de l'opinion, jeter du brouillard, cacher les enjeux économiques, sociaux, les objectifs stratégiques de chaque guerre, et faire en sorte que la guerre, ça vient de quoi? Ben ça, on ne comprend pas très bien, donc c'est des monstres. Les frères Kouachi, c'est des monstres. Al-Qaïda, c'est des monstres. Daesh, c'est des monstres. Entre parenthèses, ne disons pas que ces monstres, nous, gouvernement des États-Unis, nous les avons armés, financés, entraînés, organisés, amenés là où il fallait, récupérés quand il fallait, et qu'après, on s'étonne évidemment d'en avoir de temps en temps un qui nous pète à la gueule à Paris. Quand vous avez Fabius qui, comme Valls et Sarkozy et tout le monde, dit « Ah, c'est scandaleux, on est en guerre », Fabius qui dit après ça, après les attentats contre Charlie, et le même Fabius qui disait en décembre 2012 à Marrakech, en Syrie, Al-Qaïda fait du bon boulot, ok ? Fabius, en Syrie, Al-Qaïda fait du bon boulot. J'aimerais bien que ce ministre qui n'est pas assez courageux pour accepter le débat me fasse un procès pour calomnie, pour insulte, pour diffamation, pour tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il veut, et qu'il puisse y avoir enfin un vrai débat sur... Oui, nos gouvernements français, états-uniens, belges et autres travaillent avec des terroristes, arment des terroristes, financent des terroristes. Et donc s'il y a un combat à mener contre le terrorisme clairement dans le monde, la première cible ce sont nos gouvernements, nos dirigeants, nos élites politiques et économiques. Ça c'est la première chose qui doit être dite et qui doit être dite par les forces de gauche. Parce que si vous ne dites pas ça, qui va le dire ? Eh oui, Marine Le Pen, Soral, etc. Et donc là, on est dans le drame que justement, il y a des gens qui disent des choses justes sur certains points pour emmener les gens dans une direction tout à fait fausse. Et si la gauche démissionne et capitule, et il faut commencer à réfléchir pourquoi on en arrive là, qu'il n'y a pas un discours de gauche qui, pour les gens, fait réfléchir. On n'est plus dans la réflexion, on est dans la panique, on est dans... faire en sorte que les gens ne pensent plus. Et donc, le problème qu'on a maintenant, pourquoi je disais il n'y a plus de manifestants quand il y a une guerre, pourquoi le mouvement anti-guerre a disparu, premièrement, on est devant une gauche qui avale complètement la version médiatique officielle. On sait quand même bien qu'à chaque guerre, il y a des médias mensonges. On sait quand même bien qu'il faut manipuler l'opinion publique pour lui faire croire que oui, cette fois-ci, ça c'est une bonne guerre. On a les exemples, les armes de destruction massive. Tous les médias qui ont dit oui, Saddam, il a les armes. Et nous, trois ou quatre pelés, on disait mais non, il n'a pas les armes, c'est pas vrai, c'est pas possible, etc. Il n'y avait pas de débat là-dessus. Et maintenant, à chaque guerre, les médias nous disent « Oui, oui, les armes de destruction massive, nous avons bien compris. » Mais non, on le refait sur la Syrie et on va le refaire demain sur je ne sais pas quel pays. Premièrement donc, si la gauche veut être utile pour les gens contre la guerre, je rappelle, moi j'étais en Irak, j'étais en Yougoslavie pendant les bombardements, j'étais en Libye pendant les bombardements, j'ai vu des choses horribles. La guerre, ce n'est pas ce qu'on voit à la télé. La guerre, c'est vous arrivez dans une ville en Libye ou en Yougoslavie et vous voyez un gosse là par terre, complètement déchiqueté comme de la viande et les parents qui pleurent à côté. Et les parents vous disent, c'est votre gouvernement qui a fait ça. Et à ce moment-là, vous vous dites, c'est avec mes taxes, c'est avec mes impôts qu'on a envoyé des bombes sur ces malheureuses personnes. Et il faut qu'on, comme mesure d'urgence, de salut public, qu'on fasse une contre-information sur les médias mensonges qui servent à vendre des guerres. Et ça, c'est la première tâche de la gauche, c'est de rétablir la vérité pour empêcher les guerres et pour défendre les peuples. Le deuxième problème qu'on a dans cette capitulation, c'est le suivant. On n'arrête pas de nous dire, c'est pour la démocratie. Si vous êtes contre la guerre, alors vous êtes pour Kadhafi le dictateur ou pour Bachar le dictateur. Bien. Déjà, il faudrait faire remarquer que amener la démocratie en Syrie avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, il y a un petit problème de logique et un petit problème de sincérité. Et donc, mais il faut aller plus loin que ça. il faut se poser la question suivante. Mais est-ce que vraiment ces gens-là qui décident les guerres, est-ce que vraiment ils vont faire avancer la démocratie ou au contraire, est-ce qu'ils vont la faire reculer? Parce que la première condition, le premier des droits de l'homme, c'est de manger quand même. Manger, d'avoir un travail. Or, nos multinationales, les Bouygues, les Bolloré, les Lagardère, les Exxon, les Monsanto, tout ça, quand ils vont dans un pays du tiers-monde, en Afrique, au Moyen-Orient, en Ukraine là maintenant, ou en Amérique latine, quand ils vont dans un pays du tiers-monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils exploitent, ils surexploitent, encore plus qu'ici. Il n'y a pas de syndicats, il n'y a pas eu toute cette tradition, toute cette organisation de la classe ouvrière, il n'y a pas les résistances qu'il y a encore ici, donc ils exploitent à fond. Ça veut dire le travail, on ne le paye pas. Mais tous les bénéfices du pétrole, de l'uranium, des matières premières, des minerais, de l'agriculture, de la forêt, de tout ce que vous voulez, de l'eau, tous les bénéfices, ils repartent dans les coffres-forts des multinationales du Nord. Vous appelez ça la démocratie ? De priver ces gens de leurs ressources, de leurs richesses, de les priver d'un avenir, de sorte qu'ils sont obligés de traverser la Méditerranée au péril de leur vie pour essayer de faire survivre leur famille qui reste là-bas. Et vous osez dire, alors que vous volez le monde entier, que vous privez les Noirs, les Latinos, les Arabes d'un avenir pour leurs enfants, que les vous condamnez à la misère, et vous osez dire que vous faites ça pour la démocratie. Donc il y a quand même un problème, c'est que on a une gauche ici en France qui en principe est contre les multinationales. De temps en temps, on vous dira du bout des lèvres, oui, les multinationales, quand même, c'est pas très bien, il faudrait, mais enfin bon, est-ce qu'on peut, etc. Le problème est le suivant. Ils sont contre les multinationales, mais chaque fois que les gouvernements font des guerres pour imposer la dictature des multinationales, ils sont chaque fois pour avec un autre prétexte. Et le problème, il est là. C'est que, en aidant ainsi les multinationales à prendre le contrôle du monde entier, parce qu'en fait, il faut voir de quoi il s'agit, hein. On est dans une guerre globale, c'est pas une guerre en Libye, en Syrie, en Irak, etc. Ça, c'est ce que les médias essaient de nous faire croire. En réalité, on est dans une guerre globale, une guerre de recolonisation. Le monde capitaliste a perdu du terrain avec la victoire de l'Union soviétique, de la Chine, du Vietnam, des mouvements de libération en Afrique. Ils n'ont jamais digéré ça. Ils n'ont jamais digéré parce que ça les privait d'un accès aux matières premières, ça les privait de zones pour exporter les produits de leurs entreprises, ça les privait d'une grande partie du monde. Donc, toute l'idée a été de reconquérir ce qui avait été perdu et de recoloniser le monde. Union soviétique, les pays de l'Est, les régimes laïques et progressistes du Moyen-Orient, de l'Afrique, etc., la Chine, évidemment. Il faut tout reconquérir, évidemment, par étapes, on commence par attaquer les plus faibles. Et donc, on a un grand problème avec cette gauche qui est théoriquement contre le capitalisme et contre les multinationales et qui, en fait, aide les gouvernements à imposer la domination des multinationales sur les matières premières, sur les richesses, sur le travail, sur les gens. On a un grand problème et si on veut arriver à faire comprendre ça, il est fondamental qu'on soit bien au courant sur chacune de ces guerres et le site Investigaction que j'anime avec Alex qui est là derrière notre stand et Nico qui est en train de filmer parce qu'on va lancer une chaîne vidéo, le site Investigaction, il a pour objectif de fournir des instruments concrets pour vous permettre de discuter au quotidien, à l'usine, ou au local de chômage, le cas échéant, ou dans les entreprises, ou dans les cafés, ou dans le métro, partout, il y a toujours moyen de discuter. Il est très très important de montrer le véritable objectif des guerres en question. Parce que le problème qu'on a, c'est que les gens... Si vous commencez à leur parler de la Libye, de la Syrie, de la Côte d'Ivoire, de l'Ukraine, ils vont dire « c'est loin, c'est compliqué et j'ai des problèmes ici ». Et si on veut donc, en tant que force de gauche, avoir une chance de lui faire comprendre, il faut lui dire « la guerre, c'est pas loin et le but, c'est ici, contre toi ». Un, tu payes la guerre. Deux, tes gosses risquent d'aller se faire tuer comme soldats un peu partout. Et trois, la guerre, ça sert à faire en sorte que les multinationales dominent le monde entier. Mais l'immigration en est la conséquence, hein. Parce que, en même temps qu'on nous fait tous ces discours anti-immigrés, dans le livre « Je suis ou je ne suis pas Charlie », j'ai aussi intégré un chapitre sur l'islamophobie et sur la contradiction fondamentale que d'un côté, on fout la trouille envers les Arabes et les Blacks qui viennent ici, et en même temps, le patronat publie des études scientifiques en disant « on en a besoin, on les veut, il faut les faire venir, il faut les choisir, mais surtout, il faut les faire venir, les immigrés, pour le développement de notre économie, pour faire la pression sur les salaires, pour maintenir la sécu étant donné le vieillissement de la population. Et donc, si un gouvernement français ou autre fait une guerre contre un pays du tiers-monde, c'est pour imposer la domination des multinationales sur l'ensemble du monde, de sorte que, comme on a eu dans le débat précédent, on est en train, excusez-moi, de créer une main-d'œuvre non seulement européenne, mais mondiale. C'est là que notre combat, s'il n'est pas internationaliste, il est foutu. On crée une main-d'œuvre internationale et la guerre, elle sert à ça aussi. Donc voilà, je me rends compte que je suis long. Je vais donc en rester là pour permettre un débat et des questions. Il y a une chose juste que je voudrais dire. Je vais faire circuler un petit carton pour les personnes qui ne reçoivent pas encore notre newsletter d'investigation. C'est une newsletter qui est gratuite et qui vous permet de recevoir nos articles, nos vidéos, nos informations, nos débats. Et voilà, si quelqu'un peut venir la prendre et la faire circuler. Et je voudrais aussi dire une chose. Ce site InvestiAction, il existe depuis 10 ans. Vous vous doutez bien que des articles, des vidéos, des bouquins, des conférences, on ne peut pas faire ça tout seul. Et en réalité, c'est un travail d'équipe. Et donc, j'ai engagé, particulièrement depuis un an, une équipe de jeunes. Il y a Alex, qui est un gars de Lille, ici, là-bas. Nico, qui est venu de Paris pour travailler avec nous. Il y en a d'autres que vous ne voyez pas. Et c'est très important qu'on développe le travail de contre-information. Le problème, quand vous faites ça, vous devez le faire sérieusement et soigneusement. Et donc, c'est du temps, c'est des recherches, c'est des enquêtes, c'est des vérifications, c'est des contacts. On fait un journal de l'Afrique, on fait un journal de notre Amérique, on voudrait bien faire un journal de Palestine. Donc, si vous recevez cette newsletter, vous devez savoir qu'il y a un gros travail. Et donc, on a besoin de sous. Parce que si on se bat contre la guerre, on a besoin du nerf de la guerre pour pouvoir justement payer ces jeunes qui travaillent avec moi. Donc, je voudrais dire que ceux qui en ont les moyens, je sais bien que je ne suis pas ici à une assemblée du Rotary ou de Lions Club, donc on ne va pas faire fortune ce soir, mais on part du principe, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et donc, Alex, il a ici, autour, près de lui, un formulaire comme ça, où vous pouvez, si vos moyens le permettent, décider de nous verser tous les mois 5, 10, 20, ou un peu plus, ou un peu moins, comme vous voulez, euros par mois. Et avec ça, ça me permet de payer des salaires de jeunes journalistes, de faire des travaux, de faire des enquêtes, de faire des vidéos et de convaincre le public qui n'est pas ici, mais qui est aussi tout important pour nous. Voilà, ça c'est ma conclusion en attendant vos questions. C'est merci de nous aider à faire la bataille de l'info.
Bonjour à tous. J'avais tout d'abord une remarque pour Saïd. Tout à l'heure, quand vous aviez évoqué le fait qu'on ait fait passer, en fait, dans la foulée des attentats du 7 janvier, la loi sur le renseignement. Je voulais aussi dire que dans la semaine ou la semaine d'après, il y a le projet Macron qui est passé à l'Assemblée. Donc c'est un peu comme Naomi Klein expliquait dans son livre « La stratégie du chaos ». Il y a aussi toujours pour faire passer des lois néolibérales, et assez dures pour la classe moyenne et petit peuple, on est obligé de fabriquer des chocs et créer du chaos social pour justement avoir l'adhésion du public. Et la deuxième, ce serait une remarque pour Michel. Ce serait en fait au niveau des guerres économiques, des guerres de captage des ressources, etc. Il y a aussi, on peut le voir sur une carte, il y a aussi une stratégie américaine d'encerclement, de containment du bloc eurasiatique. Et on peut le voir en fait avec des mouvements créés en Europe de l'Est, au Caucase, en Syrie. Et pourquoi pas aussi demain au Turkestan, au Xinjiang chinois.
Il y a d'autres intervenants ? Allez-y, hein, parce qu'après...
Bonjour. Je suis un vieux militant communiste et je partage totalement ce que tu as dit à la fin de ton propos, qu'on a toujours tout fait pour diviser les gens de façon à régner. C'est pas d'aujourd'hui qu'on vit ça, on le sait. Beaucoup d'entre nous se sont toujours battus pour essayer justement de contrer cette chose-là. Quand on défend tout le monde, on se défend soi-même. Malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'en se défendant eux-mêmes, ils défendent le monde et en réalité, ils ne défendent rien du tout. Je pense que derrière, la réponse a été donnée par Michel. C'est-à-dire que c'est cette contre-information. C'est très, très important de comprendre que si on ne fait pas ça, on n'arrivera plus jamais à rien. Parce que moi, je commence à me désespérer. Je suis aussi un ancien enseignant, j'ai 72 ans. Je commence à dire comment faire pour arriver à toucher les gens. Mais je crois que le nerf, c'est bien ça, c'est la contre-information. Et par contre, on ne se donne pas assez les moyens. Hein, je me souviens d'avoir vu un film sur le Venezuela, ça m'avait beaucoup plu, je l'ai fait diffuser à mes camarades. Et je pense qu'à notre petit niveau, à notre niveau à nous, on est capable, on doit être capable de faire des choses. Que ce soit pour la résistance, il y a des tas de valeurs qu'on doit remettre en place.
Oui, Saïd, vous disiez que la bourgeoisie n'est pas bête dans ses stratégies, et Michel, vous disiez qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on ne pense plus, qu'on n'arrive plus à penser. Et je me demande, hein, c'est par rapport aux études que vous avez faites sur la décolonisation, si nous qui sommes du côté des opprimés, qui sommes nous-mêmes opprimés ou qui nous mettons volontairement de leur côté, nous ne mettons pas toujours un certain temps à comprendre quelles sont les stratégies de la classe dominante pour nous écraser. Et là, j'ai l'impression qu'on est passé à un stade supérieur, le stade où la bourgeoisie, avec les techniques de la communication, du développement des sciences humaines, est arrivée au fin du fin, c'est-à-dire, je crois, hein, que la classe dominée finit peut-être par aimer l'outil de sa domination. Je vous parle de ça, par exemple, je suis enseignant, donc je suis très sensible à la question du rapport entre les petites filles et les petits garçons. Et le modèle qu'on met dans la tête des petites filles, je crois que ça fait un petit moment que c'est le cas, c'est la princesse. Et son valeureux prince qui vient la sauver. Quand on y regarde de plus près, ce modèle, qu'est-ce que c'est? C'est une femme incompétente, fragile, qui se fait bouffer et qui attend qu'un homme vienne la sauver. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que ça pose énormément de problèmes au niveau de la reconnaissance de la cause de la femme, et on arrive parfois à des renversements extrêmes. Bon, le premier exemple, c'est celui-ci. Et le deuxième, pour moi qui milite activement, mais dans mon entourage, je me rends compte que finalement les gens sont comme moi, on est tous prisonniers de ce système capitaliste, et les premières pensées ne viennent pas du cerveau, mais elles viennent du corps. Et en fait, on n'a pas le temps. On est pris en permanence dans notre activité professionnelle, tout le monde court pour s'en sortir, fait des travaux chez lui, etc. Et donc, il nous reste un peu de temps disponible. Et ce temps disponible, ce que je constate dans mon entourage, c'est que j'ai la possibilité, moi, dans mon entourage, de côtoyer des gens de la haute bourgeoisie. Je vois une vraie différence dans la manière dont on occupe ce temps disponible. Et principalement je vais y aller être direct, puisque c'est vraiment l'objet de mon propos, dans le rapport aux stupéfiants, parce que je crois que c'est aujourd'hui fondamental. Moi, je vois dans la cité dans laquelle j'ai grandi, quand j'y retourne, la plupart des jeunes aujourd'hui sont dehors, devant leur voiture, ils sont en train de vendre de la drogue et d'en fumer. Dans la classe bourgeoise que je côtoie, il y a aussi de la drogue, mais c'est pas pareil. C'est parfaitement géré, dominé et maîtrisé. Mais je vois que quand j'en parle à ces jeunes, ça pose un problème parce qu'ils ont fini par aimer cet outil d'oppression qui, en fait, leur apparaît comme un outil à l'inverse de libération, qui les libère de leur conscience. Et je crois que, finalement, le temps disponible est presque trop limité. Et peut-être que la stratégie, la bonne, enfin, une autre manière de voir, ce serait de manière détournée. Non pas en explicitant toujours directement ce qui se passe, parce que ça fait fuir beaucoup de monde, en fait. Ce que vous disiez, Michel, ça paraît loin, ça paraît inaccessible, mais peut-être de leur parler de leur réalité, de leur quotidien, de la disponibilité de leur temps. Mais là, je crois qu'on a tous individuellement un travail à faire par rapport à ça, parce qu'on a ce rapport aux stupéfiants, je crois qu'il est vraiment colossal dans notre pays. On a des études qui sortent régulièrement, disent le rapport aux stupéfiants, donc le cannabis, mais aussi l'alcool. Moi, à chaque fois que je vais dans les magasins, je dis c'est pas possible, tous ces rayons, c'est colossal. Et c'est pas le bourgeois à qui ça va poser un problème. Hein. C'est mon voisin dans la cité qui va voir sa famille bousillée à cause de ça. Voilà, donc ma question, c'est toujours la question de la stratégie et de comment on peut aider nos camarades, je vais utiliser ce mot, à sortir de l'amour de ce qui est, de ce qui en fait des dominés.
Oui, deux, trois petites choses là-dessus. Il n'y a pas une réponse absolue à votre question, mais il y a deux, trois petits éléments qui me semblent importants. Le premier, c'est dans tous les processus de domination, ça commence par l'intériorisation, par le dominé de son infériorité, de son incapacité, etc. C'est comme ça que ça marche, la domination. On fait croire à l'ouvrier qu'il est un nul, pour qu'il accepte que d'autres décident pour lui. On fait croire à l'immigré qu'il est un nul. Et donc toutes les dominations font croire à la femme qu'elle n'a pas d'autre moyen de s'en sortir que d'être une princesse, etc. Donc l'intériorisation, ça fait partie de la domination. Et donc ça, c'est pas nouveau. Ce qu'il y a de nouveau, c'est les vaccins. On a moins de vaccins que par le passé. C'est-à-dire que faut s'intéresser aux antivirus. Qu'est-ce qui a fait qu'on a abandonné les antivirus? Parce que dans le passé, il y avait effectivement du fait d'un parti communiste fort, ancré dans des quartiers populaires, avec des clubs d'éducation populaire, avec des espaces de ciné-club, etc. Il y avait toute une série d'antivirus qui diffusaient une autre lecture de la réalité. Bon, je dis pas ça pour qu'on se plaigne, je dis ça juste pour qu'on se dise que il faudra pas oublier, dans les futures luttes sociales, toute la dimension culturelle et idéologique, parce que les idées se gagnent, les combats se gagnent aussi là-dessus. J'ai cité Gramsci au tout début. Gramsci disait que la bourgeoisie, pour dominer, elle a besoin d'une hégémonie culturelle. C'est-à-dire qu'elle a besoin de présenter sa culture comme étant la culture. Et il disait en même temps que le combat contre cette bourgeoisie, c'était les grèves, c'était les manifestations, c'était les révolutions, mais c'était aussi, pour y arriver à tout ça, la construction d'une contre-hégémonie culturelle. C'est-à-dire diffuser d'autres grilles de lecture, diffuser dans toute une série d'espaces, dans le maximum d'espaces possible, d'autres explications de la réalité. Je pense que, par exemple, Investigation joue une fonction de contre-hégémonie culturelle. Si on devait la caractériser théoriquement, c'est ça que fait Investigation. Sur la question des stupéfiants, il faut faire attention de ne pas avoir un regard totalisant sur les quartiers populaires et sur les milieux populaires. Tous les jeunes de milieux populaires ne sont pas dans les stupéfiants. C'est important d'avoir en tête, parce que sinon on ne voit pas sur quoi s'appuyer. Il y a au contraire, au même moment, beaucoup de réactions, mais qui ne savent pas vers quelle direction aller. Je voudrais juste vous en donner quelques-uns. Regardez le nombre de chansons de rap qui ont une analyse aiguë de la situation, qui parlent de dominants, de dominés, de classe, de colonisation, etc. C'est d'ailleurs pour ça que la bourgeoisie n'aime pas le rap, hein. En tout cas ce type de rap-là. Et ce rap-là, il est beaucoup écouté dans les quartiers populaires. Dans le même temps, on a aussi dans les quartiers populaires, Michel l'a souligné, une attirance vers quelqu'un comme Alain Soral. Mais qu'est-ce qu'offre Alain Soral à cette jeunesse? On peut voir tout l'aspect négatif, et moi je pense qu'il faut voir l'aspect négatif, mais il faut voir aussi ce qu'il dit que nous ne disons pas, sur quel élément de vérité il s'appuie pour les désorienter, pour les orienter vers des impasses. Il y a au moins trois éléments que dit Soral qu'on ne dit plus assez à gauche. Le premier élément que dit Soral, il dit aux jeunes des quartiers populaires, mais arrêtez votre problème, c'est le système. Il dit, je suis anti-système. Mais on a beaucoup de discours de gauche qui n'osent plus dire ça. Il y a un système dominant, avec une classe dominante, etc. Lui, il ne dit pas classe dominante, il dit, il y a un système. Et donc, ça veut dire que dans les quartiers populaires, il y a besoin d'une analyse qui ne soit pas une analyse sur tel méchant ou tel mauvais patron, mais sur le système en tant que tel. Soral le dit pour les désorienter, nous on a besoin de le dire pour qu'ils choisissent un autre chemin. Deuxièmement, il a un discours sur la radicalité. Il faut être radical. Ben là aussi, l'oppression vécue dans les quartiers populaires, dans la classe ouvrière, dans les milieux populaires, est telle qu'il y a besoin d'un discours de radicalité. Or, toute une partie de la gauche n'a plus de discours de radicalité. On est doux, on est mou, on se demande si la revendication ne va pas apparaître comme trop dure, etc. Même dans nos mots, on a toute une partie de la gauche qui ne parle plus de classe sociale, mais de catégorie sociale. Et donc on a toute une série de mots comme ça qui ne permettent pas à ceux qui ont besoin d'une colère, que leur colère trouve de se reconnaître. Et puis troisièmement, il offre une cible. Cette cible, elle est idiote, elle est... il dit c'est les juifs. Bon, c'est une mauvaise cible. C'est pas la cible des réalités. Mais il offre une cible. Quand nous, au niveau de la gauche, on a du mal à montrer une cible. C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui des... On le voit, si j'ai parlé du 11 janvier, c'est que pendant plusieurs mois, on a eu quand même des discours de gauche qui disaient « Oui, il y a un vrai problème musulman. » Ah oui, il y a un vrai... Et donc, du coup, le discours de la gauche est inaudible puisque la cible n'apparaît plus. Et je pense que ça montre quoi? Ça montre deux choses. Un, qu'il y a une aspiration dans les quartiers populaires, donc ils ne sombrent pas tous dans la toxicomanie, mais que cette aspiration... Elle ne peut trouver un canal d'expression que s'il y a une contre-information, s'il y a une contre-hégémonie culturelle, si effectivement on est capable de développer le maximum, dans le maximum d'endroits, des rapports aux habitants des quartiers populaires dans lesquels on parle politique. Et ils sont en demande.
Michel.
Je pense que les deux interventions qu'on a eues sont importantes. Notre camarade qui disait qu'on peut et on doit commencer par mener la bataille de l'info autour de soi, et notre camarade enseignant qui parle de ce manque de confiance, de cette perte de repères. Et je pense que, en soulignant, en partageant tout à fait encore ce qu'a dit Saïd, je pense que, étant donné, ne nous voilons pas la face, qu'on est dans, bon, la lutte des classes, on n'a plus le droit de dire ce mot, donc pardon, ça connaît des hauts et des bas. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose en vous disant qu'on n'est pas dans une période haute pour le moment par rapport au passé. Mais c'est toujours des, en Europe, mais c'est toujours des cycles, et je pense que quand on est dans une période basse, il faut aussi choisir le terrain sur lequel on combat, et choisir des choses qui vont être possibles pour les gens. Donc je pense que la bataille de l'info, c'est effectivement un premier pas dans ce combat, et que chacun peut vraiment être efficace autour de soi. Ce qui veut dire qu'à InvestiAction, on essaye de faire des choses simples, et on va, dans les prochains mois, faire quelque chose d'encore plus simple, qui arrivera régulièrement sur les téléphones des gens pour utiliser rapidement partout dans les discussions qu'on a autour de soi. Et avec ça, il faut que les gens reprennent confiance dans leur capacité à aller contre le mensonge et à marquer des points contre le mensonge. Si vous avez sur votre téléphone un petit truc très simple qui dit « t'as vu ça hier au JT ?» Eh bien c'est faux, parce que moi j'ai appris ceci. Vous avez une discussion facile, possible, où on peut avancer. Et si on fait cette discussion dans le sens que l'a dit Saïd, de montrer la question des dominants et des dominés, c'est-à-dire de faire revenir la question des classes sociales qui est évacuée de l'information, je pense que ça, c'est une façon de changer le rapport de force de manière très simple au quotidien pour tout le monde. C'est pour ça que j'insiste sur... Je pense que ces deux interventions, elles sont précieuses.
Il y a une autre intervention. Alors... simplement un rappel par rapport au délai qu'on a. Hein, à 18h, 18h30, on a une petite assemblée autour de la question des migrants. C'est une question importante pour nous, en tous les cas, parce qu'on veut être solidaire, puisque solidaire, on veut agir. Donc il est important, je crois que le rendez-vous, c'est tout à l'heure à 18h, 18h30. Hein, on va décaler un petit peu, hein, si ça gêne pas. Mais voilà, donc... Avance. Tiens, je te passe au micro.
Oui, bonjour. Ma question, c'est pour savoir, hier, j'ai suivi, comment on appelle, la discussion de Sarkozy avec ses militants. Et il y a un tweet qui m'a beaucoup interpellé. C'est le tweet d'un maire d'une ville à côté de Marseille. Comment est-ce que c'est possible en France qu'on peut stigmatiser les gens? Et on se permet de dire, voilà, on peut interdire une religion. Et quand on sait l'histoire qui s'était passée ici en France, rappelons-le, des juifs, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup bouleversé, étant donné que je suis musulman. Et franchement, ça donne peur, quoi. Et ça n'a pas fait beaucoup d'écho. Et après, on va dire que, voilà, la personne il n'a pas toutes ses facultés. Bon, ça c'est la première question. Et la deuxième question, je le pose à M. Michel. Et parce que moi, je suis activiste et On milite contre tout ce qui est accaparement du pouvoir en Afrique et on n'arrive pas à comment fédérer autour de notre cause. Même ici en France, on sait très bien que tous les dictateurs africains qui passent par ici, ils sont, reçus à l'Élysée. Et quand on sait ce qui se passe là-bas, moi je suis tchadien et je vois ce qui se passe au Tchad. Et bon, ça fait 25 ans que le président actuel il est au pouvoir et il n'y a pas moyen de faire une alternance. Et tous les moyens que les gens ils ont optés, ça a été capoté par la France. Donc en 2008, il y avait une incursion de rébellion et c'est la France qui a bombardé cette rébellion et qui a permis la conservation du pouvoir de M. Déby. Et Hollande, quand il était élu, il a dit qu'il s'engageait à ne plus recevoir de dictateurs en France ou à l'Élysée. Et donc, c'est ce qui se passe. Voilà, c'est juste un éclaircissement pour...
Juste une phrase, ce que vous dites est tout à fait vrai. Et la chose que je peux proposer par rapport à ça, c'est que les gens qui sont ici, je ne sais pas s'il y en a énormément qui connaissent la situation au Tchad, j'en connais un petit peu parce que je suis les questions stratégiques en Afrique, mais certainement beaucoup moins que vous. Et je pense que quand Hollande reçoit le dictateur du Tchad à l'Élysée, il faudrait que justement sur les téléphones, le jour même, parce que c'est une visite qui est planifiée, on ait, venant de vous, une proposition, voilà, la France a commis tel et tel crime, a couvert tel et tel crime au Tchad, et la fortune des multinationales consiste à voler ça et ça pendant que les Tchadiens crèvent. Un truc en 10 lignes. Donc si vous pouvez nous aider à faire ça, et Alex que vous voyez là à la table, il est celui qui gère le journal de l'Afrique que nous faisons tous les mois, si nous pouvons avoir des articles de fond sur le Tchad, mais aussi quand il y a une visite comme ça, que tous les gens qui sont ici et tous les autres, les milliers qui vont recevoir ce petit truc sur leur téléphone, peuvent dire « Ah, eh ben notre président, avec notre argent, reçoit une crapule et ça sert à ce que l'argent volé au Tchad va aller dans la poche de Bolloré, de un tel et de un tel. » Là, vous serez, à mon avis, encore plus utile qu'en le disant ici et c'est ça que j'espère de vous.
Oui, juste une précision et une anecdote qui... Pour moi, est révélatrice quand même l'état d'esprit qui a pu régner. Bon, la première, c'est quand même la précision, la gauche anti-guerre, la social-démocratie exceptée quand même entre la grande trahison de 1914, la guerre du Rif, la guerre d'Algérie, la première guerre du Golfe pour la France, la seconde n'étant pas engagée, mais c'est justement pas la gauche social-démocrate française auquel on le doit. J'en passe des meilleurs. De toute façon, Michel, à mon avis, est largement d'accord avec moi. Il connaît encore mieux que moi là-dessus. C'était juste rappeler quand même ce point-là. Mais c'est vrai qu'une grande partie de la gauche, ne serait-ce qu'écologiste, qui a quand même pour une grande partie troqué le vert pour le kaki, pas tous, mais quand même une grande partie, et d'autres que je ne citerai pas. L'autre point, c'est... Bon, en ce moment, je vois assez peu mes collègues. Et je les ai vus un mois et demi après les événements, les attentats, la grande manifestation, etc. Alors, ce sont des collègues qui sont vaguement de gauche. Ça doit voter entre Parti Socialiste et qu'ils sont vraiment très, très, très en colère à réussir à voter Front de Gauche. Mais bon. Mais par contre, c'est l'ambiance. Il est quasiment interdit de faire le moindre politique, le moindre travail syndical. Quand j'arrive à distribuer un tract syndical sans avoir de remarques comme quoi ça serait interdit sur le lieu de travail, etc., je m'en sors bien au niveau politique. Il faut vraiment que je distribue que les plus convaincus d'entre eux. Par contre, ça ne les a absolument pas gênés de foutre « Je suis Charlie » sur toutes les fenêtres. Et donc j'arrive et je débarque là-dessus. Et j'aborde la discussion légèrement avec eux. Je les vois une fois tous les deux mois, donc forcément, j'ai pas pu creuser. Mais clairement, ce qui est sorti, c'est qu'ils ne se sont même pas rendus compte qu'il y avait un choix idéologique derrière. C'est ça. C'est quand la bourgeoisie, comme ça y est, les dominants, arrive à nous imposer l'idéologie, et sauf même que les masses s'en rendent compte, là ça devient extrêmement dangereux, parce que là on commence, on parle vraiment de plus que ras de terre.
Est-ce qu'il y aurait des intervenants? Sinon, nos amis peuvent... Tu vas intervenir là-dessus? Après, oui.
Je pense que l'intervention de notre camarade, et on va clôturer par là, me semble très importante. Il a parlé sur l'histoire de la lutte contre la guerre, et puis sur « je suis Charlie » ou « je ne suis pas Charlie ». C'est très important de souligner que ce que je viens de dire sur la capitulation de la gauche, et je ne parle pas de François Hollande, bien entendu, et par rapport à la guerre, c'est toute une histoire. On célèbre maintenant les anniversaires de la guerre 14-18. Il faut rappeler que l'Internationale communiste avait adopté comme mot d'ordre « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Et que, en France, le 4 août 1914, on a, y compris dans les rangs syndicaux, lancé un mot d'ordre un peu différent, à savoir « Prolétaires de tous les pays, entretuez-vous ». Tout d'un coup, l'ouvrier allemand était devenu l'ennemi à abattre. Jaurès assassiné et la CGT se divise en deux ailes en 1914. Quand la France agresse le combat révolutionnaire au Maroc, au RIF en 1925, il y a aussi un ralliement majoritaire dans la CGT pour et une minorité qui combat et des intellectuels qui combattent. En 39-45, il peut sembler que c'est un peu différent, mais c'est quand même la même chose quelque part. Du point de vue du capital allemand, c'est la même guerre. Et la social-démocratie a refusé de faire le front avec l'Union soviétique contre le fascisme et a joué le jeu de pousser Hitler pour détruire le socialisme en Union soviétique, trahison de nouveau. Et donc, vous allez dire, mais où il veut en venir? Très simple. Nous sommes aujourd'hui aussi dans une forme de guerre mondiale. Mais évidemment, l'histoire ne se répète pas, ce n'est pas la même chose. C'est une guerre mondiale du Nord contre le Sud. Quand je parle de cette guerre globale pour recoloniser, c'est une guerre qui assassine par la faim, par le non-développement, par la dette, par les coups d'État, par les déstabilisations et par les guerres quand tout ça ne suffit pas. Donc, la responsabilité de la gauche, c'est la même. Je rappelle qu'en 14-18, la trahison de la grande majorité de la gauche, il y a eu les exceptions, en Union soviétique, Rosa Luxembourg, Jaurès, etc., mais une minorité, le coût de cette trahison, c'est 10 millions de morts. Parce que cette guerre-là, elle n'aurait pas pu éclater, ou en tout cas, elle n'aurait pas duré longtemps si la gauche entièrement avait dit stop. Donc, c'est un point important pour montrer l'enjeu. Et deuxième remarque, effectivement, on a créé un tel climat que ça semble naturel et incontestable de coller cet autocollant « Je suis Charlie ». Le sociologue français Roland Barthes disait il y a longtemps déjà « La bourgeoisie est la classe qui ne veut pas être nommée. Le fin du fin, c'est de faire passer l'idéologie bourgeoise comme étant naturelle, normale, incontestable, tout le monde est d'accord avec ça, sauf les extrémistes ou les fous, les monstres, etc. » Et donc, le problème, et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin en marchant sur des œufs, vous allez dire, ah, c'est un titre un petit peu ambigu, là, il a eu peur. Le problème est le suivant. Tout est fait pour diviser le peuple et les jeunes des quartiers populaires et la majorité des gens qui ont manifesté pour Charlie, ce sont deux parties du même peuple. Et tout est fait pour le diviser. Donc, le travail que nous avons à faire, c'est de rétablir le débat. Ça passe malheureusement par rétablir le débat à gauche, où au lieu de, quand il y a des divergences, on les débat et grâce avec ça, on essaye d'avancer dans la compréhension du monde qui est complexe. Non, il y a une maladie maintenant dans la gauche, et pas seulement en France, en Europe en général, qui est, ah, il pense pas comme moi, il est donc un iste ceci ou un iste cela, complotiste, conspirationniste ou je sais pas quoi. Qu'on arrête avec cette comédie. Il est normal que le monde étant complexe, il y ait des divergences et des différences d'opinion. Et c'est en les débattant calmement et amicalement qu'on va avancer. Et donc, il faut bien se dire que les gens qui ne veulent pas débattre, mais qu'est-ce qu'ils craignent? Ils craignent qu'on regarde leur feuille de salaire, Ils craignent qu'on regarde qui les paye, ils craignent qu'on regarde qui leur permet de faire une carrière. Qu'est-ce qu'on a à craindre de discuter? Si les choses que Saïd ou moi ont dit, c'est tellement faux et tellement bête, mais qu'ils viennent et qu'ils le montrent, ça prendra 5 minutes et tout le monde aura ouvert les yeux. Mais celui qui refuse de débattre, la question à se poser, c'est, mais il cache quoi?
Oui, moi je voudrais juste souligner par rapport à l'intervention du camarade tout à l'heure, que la déclaration de ce maire, c'est le haut de l'iceberg. Parce que là, on est dans les résultats, justement, de ces 3 mois autour du « Je suis Charlie », comme politique publique, comme instrument idéologique. En réalité, les actes islamophobes, en 4 mois, c'est le double de toute l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a connu une augmentation importante. Et ceux qui pensent encore que s'intéresser aux stratégies de la classe dominante, quand elle nous dit ça, qu'est-ce qu'elle vise, qu'est-ce qu'elle veut cacher, etc., ça a été toujours un vieux réflexe des dominés que d'essayer de comprendre qu'est-ce que la classe qui a en face, elle essaye de faire de nous. Et aujourd'hui, Michel a raison, dès qu'on essaye de comprendre la stratégie de la classe dominante, on vous dit c'est complotiste, c'est conspirationniste, etc. Mais ceux qui veulent la preuve qu'on a bien une instrumentalisation idéologique de l'émotion des attentats, c'est de regarder pourquoi les médias se sont tus sur d'autres personnes qui ont dit « je ne suis pas Charlie ». Il n'y a pas que des musulmans qui ont dit « je ne suis pas Charlie ». Les musulmans disent « je ne suis pas Charlie » parce que, effectivement, dans ce journal, ils voyaient des caricatures de leur religion. Et comment leur demander après de dire « je suis Charlie » ? Il y en a d'autres. Il y a 5 associations féministes qui ont dit « nous, on est contre les attentats, mais on ne peut pas être Charlie compte tenu de l'image de la femme qu'il y a dans Charlie Hebdo ». Et pourtant, on a eu un silence complet dans les médias là-dessus. Ce qui était bien la preuve qu'on voulait orienter dans une direction. Tous ceux qui disent « je ne suis pas Charlie » sont en fait des défenseurs des terroristes. C'est ça qu'on voulait faire passer et pour créer cette dimension d'unité nationale. Et encore une fois, l'objectif final de tout ça, c'est bien, c'est pas un hasard, hein, c'est le même jour où on a fait le discours où Valls dit l'esprit du 11 janvier que l'on vote la poursuite de la guerre à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. Et donc, je terminerai là-dessus, si on ne s'oppose pas aux guerres, on n'arrivera pas ici à avoir aussi les arguments qui nous permettent d'éviter la division du peuple. Il n'y a pas un combat ici pour éviter la division du peuple et un combat contre les guerres qui seraient ailleurs. C'est le même combat. Si on perd sur l'un, on aura perdu sur l'autre.
Pas de conclusion, mais... D'abord, remercier Michel et puis Saïd. Je pense que celles et ceux qui ont participé ont pu apprécier leur intervention. Elles sont filmées. Il y a besoin de soutien financier, militant. Ça, je crois que chacun l'a compris. Et on peut briser quand même cette guerre. Parce qu'on est en guerre. Moi, j'ai cette colombe de Picasso. Parce que je suis membre du mouvement de la paix. Je le redis. Tout à l'heure, je le redis. Parce que c'est un combat de classe que se battre pour la paix. C'est vraiment le combat le plus de classe qu'on peut connaître. Et puis, bien évidemment, rendre d'espoir. Et je terminerai simplement par un titre d'un poème. Lisez-le. C'est la victoire de Guernica. Voilà. Guernica, c'est une défaite, mais non, c'est une victoire. Voilà. Contre le fascisme. Parce qu'un jour, le drapeau rouge, il a flotté sur le Reichstag. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc, il n'y a pas de combat perdu. On est au creux de la vague. C'est dur pour nous en Europe. Il y a d'autres pays où c'est un peu mieux, notamment en Amérique latine. Donc regardons aussi, et être communiste, être révolutionnaire, c'est être patient. Parfois, c'est le temps long, c'est difficile, mais voilà. Donc on ne se résigne pas, on se bat, et on va aider à soutenir nos camarades migrants. Voilà. Tu voulais parler? Parce que... Vas-y.
Est-ce qu'actuellement, vous ne pensez pas qu'il peut y avoir une guerre nucléaire parce que les États-Unis sont en train de s'écrouler économiquement? Est-ce que vous ne pensez pas que notre problème aujourd'hui, c'est qu'on peut arriver dans une guerre nucléaire qui peut nous arriver parce que on est quand même, nos dirigeants sont quand même des dictateurs pour moi, en Europe. Hein, en Europe et l'Arabie Saoudite, le Qatar et j'en passe. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui notre problème c'est de vraiment qu'il y ait des manifestations? Mais vraiment, vraiment entièrement de la masse populaire, parce que si ça peut être de toute façon, on fait quoi?
Moi, je n'ai pas de réponse, mais ce qui est sûr, c'est que je suis peut y avoir des débats sur le nucléaire civil, mais alors sur le nucléaire militaire, je pense qu'on devrait tous être des militants pour le désarmement nucléaire. Et moi, je suis pas pour que l'Iran ait l'arme nucléaire. Je suis pour que Israël, la France, etc., désarment nucléaire. Voilà, il n'y ait plus d'armes nucléaires sur cette planète. Parce que, tôt ou tard, je pense qu'il y a un sens à l'histoire, que ce sont les peuples qui font l'histoire, et la seule, oui, le cataclysme nucléaire est possible. Mais bon, on va quand même pas broyer du noir, on est là pour faire la fête aussi, quoi. Donc voilà, donc merci de votre attention, merci à Saïd, merci à Michel, et puis vous allez les revoir sur Internet, bien évidemment. Voilà.